Chapitre 30. Dans toutes les forces socialisantes majeures, vous trouverez un mouvement sous-jacent visant à gagner et à conserver le pouvoir par l'usage des mots. C'est le même phénomène du docteur miracle au bureaucrate en passant par le prêtre. La masse gouvernée doit être conditionnée afin d'accepter les mots pouvoir comme des choses réelles, afin de confondre le système symbolisé avec l'univers tangible. Dans le maintien d'une telle structure de pouvoir, certains symboles sont tenus à l'écart de la commune compréhension, tels ceux qui ont trait à la manipulation économique ou encore ceux qui définissent l'interprétation locale de la santé mentale. De tels secrets quant aux symboles conduisent au développement de sous-langages fragmentaires, chacun signalant que ses utilisateurs accumulent une certaine forme de puissance. Averti de ce processus de création de pouvoir, notre force de sécurité impériale devrait être constamment attentive à la naissance de tels sublangages. Conférence au collège de guerre d'Arakine par la princesse Irulane.
Sans doute n'est-il pas nécessaire de vous en informer, dit Faradine, mais afin d'éviter toute erreur, je tiens à vous prévenir qu'un muet a reçu l'ordre de vous abattre tous deux si je donne signe de succomber à la sorcellerie.
Il ne s'était pas attendu à une quelconque réaction de la part de Dame Jessica ou de Duncan Idaho, et leur mutisme en fut la confirmation. Il avait choisi avec soin le lieu de ce premier contact, la vieille salle d'audience de Shaddam. Le manque de grandeur de la pièce était largement compensé par la décoration exotique. À l'extérieur, c'était un après-midi d'hiver sur Salusa Secundus, mais la pièce était baignée dans l'éternelle clarté dorée d'un jour d'été qui émanait de brilleurs taillés dans le cristal ixien le plus pur et habilement distribué. Les nouvelles venues d'Arrakis emplissaient Faradine d'un tranquille soulagement. Leto, l'héritier mâle des Atréides, était mort, tué par un tigre assassin. Ganima, sa sœur survivante, était, disait-on, un otage entre les mains de sa tante. L'ensemble du rapport expliquait amplement la présence ici d'Idaho et de Dame Jessica. Ils cherchaient un asile. Les espions de Corino faisaient mention d'une trêve inquiète sur Arrakis. Alia avait accepté de se soumettre à une épreuve appelée « jugement de possession », dont le but n'avait pas été clairement défini. Cependant, aucune date n'avait été fixée, et deux des espions estimaient que le jugement n'aurait sans doute jamais lieu. Une chose était certaine en tout cas. Il y avait eu combat entre les Fremen du désert et les militaires Fremen de l'Empire. Une guerre civile qui avait temporairement paralysé le gouvernement. Les bases de Stilgar étaient désormais terrain neutre après un échange d'otages. Il était évident que Ganima faisait partie de ces otages, quoique la démarche fût encore obscure. Jessica et Idaho avaient été amenés dans la salle d'audience soigneusement ligotés dans des sièges suspenseurs. Les liens Shigavri qui les maintenaient se resserreraient de façon cruelle au moindre de leurs mouvements. Les deux soldats Sardaukar s'étaient retirés en silence après avoir examiné consciencieusement les liens. Il était évident que l'avertissement de Faradine n'était nullement nécessaire. Jessica avait vu le muet armé qui se tenait immobile contre le mur à sa droite. Son pistolet à projectiles était ancien mais efficace. Elle promena le regard sur la salle. Les larges feuilles du précieux buisson de fer avaient été incrustées de perles et tressées de façon à former le croissant central du plafond en dôme. Le sol était composé de blocs de bois diamant alternant avec des coquilles de kabutsu, entre quatre bordures faites d'eau de passaké. Ces dernières avaient été taillées au laser, puis polies. Les murs étaient décorés de matériaux durs qui faisaient ressortir les quatre positions du symbole du lion revendiqué par les descendants de Shaddam IV. Les lions étaient faits d'or brut. Faradine avait décidé de demeurer debout pour recevoir les prisonniers. Il portait un short militaire et une veste légère en soie d'elfe à col ouvert. Il arborait une seule décoration, l'étoile de prince de sang royal, agrafée sur sa poitrine.
Auprès de lui se tenait le bachar Tiekanik, portant la tenue de cuir et les hautes bottes de Sardaukar. Un pistolet laser richement ornementé glissait dans un étui sur la boucle de son ceinturon. Jessica connaissait ce visage aux traits lourds. Elle l'avait vu dans les rapports Béni Gesserit. Le bachar se tenait légèrement en retrait de Faradine, à 3 pas de distance. Derrière eux, il n'y avait qu'un unique trône, de bois sombre, installé à même le sol près d'un mur. « Et maintenant ?» dit Faradine en s'adressant à Jessica. « Avez-vous quelque chose à dire ?»«
Je voudrais demander pourquoi nous sommes attachés de la sorte ?» déclara-t-elle en désignant les liens de Chigavril.
« Nous venons juste de recevoir certains rapports d'Arrakis qui expliqueraient votre présence ici. Peut-être vais-je vous libérer à présent ?» Il sourit. « Si vous... »
Il s'interrompit comme sa mère franchissait la grande porte d'État dans le dos des captifs.
Wenzichia passa près de Jessica et de Duncan sans leur accorder un regard. Elle tendit à son fils un cube message tout en l'activant. Faradine se pencha sur la face qui s'était illuminée, regardant parfois Jessica. Puis il rendit l'objet à sa mère et lui demanda de le présenter à Tiekanik. Ensuite, il observa Jessica en fronçant les sourcils. Wenzichia vint prendre place à la droite de son fils, le cube au creux de sa main, en partie dissimulé par un pli de sa robe blanche. Jessica chercha en vain le regard de Duncan Idaho.
« Le Bene Gesserit me reproche la mort de votre petit-fils, » dit Faradine. « Les sœurs croient que j'en suis responsable. »
Jessica effaça toute émotion de son visage et pensa « Ainsi, elle croit l'histoire de Ganima, à moins que les inconnus qu'elle devinait ne lui plaisaient guère. » Idaho ferma les yeux, puis les ouvrit et la regarda. Elle observait Faradine. Idaho lui avait rapporté sa vision Rajia, mais elle n'avait pas paru troublée. Il ne savait à quoi attribuer son absence d'émotion. Il était évident qu'elle savait quelque chose qu'elle ne pouvait révéler.
« Telle est la situation, » dit Faradine, et il entreprit d'expliquer tout ce qu'il avait appris des événements survenus sur Arrakis sans rien omettre, concluant « Votre petite fille est sauve, mais on dit qu'elle est sous la garde de Damalia. Cela devrait vous rassurer ?»«
Avez-vous tué mon petit-fils ?» demanda Jessica.
Il lui répondit avec sincérité.
« Non, je ne l'ai pas tué. J'ai récemment appris l'existence d'un complot, mais il n'était pas de mon fait. »
Jessica regarda Wenzichia, lut la joie méchante sur son visage en forme de cœur, et songea « C'est elle. » La lionne a comploté pour son lionceau. La lionne aurait à regretter ce jeu.
Mais les sœurs pensent que c'est vous qui l'avez assassiné, dit Jessica, s'adressant de nouveau à Faradine.
Faradine se tourna vers sa mère. Montrez-lui le message.
Wenzichia hésita et il ajouta avec un trait de colère que Jessica nota précieusement.
J'ai dit, montrez-lui le message.
Un peu plus pâle, Wenzichia s'avança et activa le cube devant les yeux de Jessica. Des mots se formèrent, répondant à son regard. Le conseil Bene Gesserit de Wallach IX dépose une plainte officielle contre la maison de Corino pour l'assassinat de Leto Atreide II. Les éléments de preuve et les conclusions sont adressés à la commission de sécurité interne du Landsrad. Un terrain neutre devra être choisi et les noms des juges seront soumis à l'approbation de toutes les parties. Votre réponse immédiate est requise. Sabit Rekouche, pour le Landsrad.
Wenzichia revint auprès de son fils.
« Qu'avez-vous l'intention de répondre ?» demanda Jessica.
« Puisque mon fils n'est pas encore légalement à la tête de la maison de Corino, » commença Wenzichia,
« je vais...
Où vas-tu ?»
Ces derniers mots s'adressaient à Faradine qui se dirigeait vers une porte dérobée, non loin du muet vigilant.
Il s'arrêta et se tourna à demi.
« Je retourne à mes livres et à tous les sujets qui ont pour moi plus d'intérêt. »«
Comment oses-tu ? » lança Wenzichia, les joues empourprées.
« J'ose faire certaines choses en mon nom propre. Vous avez pris certaines décisions en mon nom, décisions qui me déplaisent à l'extrême. »
ou bien je prendrai désormais moi-même les décisions faites en mon nom, ou bien vous trouverez un autre héritier à la maison de Corino. »
Le regard de Jessica passa rapidement de l'un à l'autre des antagonistes. Elle lut la colère sur le visage de Faradine. Le Bachar se tenait raide au garde-à-vous, affectant de ne rien avoir entendu. Quant à Wenzichia, elle était au bord de la rage. Faradine semblait prêt à toutes les issues après ce coup de dé. Jessica admirait son calme. Dans cette dispute, il y avait tant de choses qui lui seraient précieuses plus tard. Il apparaissait que la décision de lancer les tigres assassins contre ses petits-enfants avait été prise sans que Faradine eût été consulté. Il était difficile de douter de sa sincérité lorsqu'il disait n'avoir appris l'existence de ce complot qu'après son exécution. Et la colère que Jessica percevait dans ses yeux signifiait qu'il était prêt en cet instant à accepter n'importe quelle décision.